Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur 4 de la saison 9 d'Il fait quoi et il fait quoi
Maë,
de nous.
Maë, c'est pas clair du tout là ce que tu dis.
Ah ok mince, attends, t'as raison, faisons plus simple. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Il fait quoi, le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation.
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Maë Burla.
Notre chronique, elle s'appuie sur la rencontre internationale qui se déroule tous les ans au mois de mai ici à Lyon. Et on voudrait donner en fait à entendre ce qui s'y passe.
L'enjeu, c'était de proposer donc un autre format pour montrer les coulisses de nos réflexions et surtout de donner envie de lire nos productions écrites. Et du revu, et du bref, et du veille.
Passer par la radio, ça nous aide à faire connaître nos travaux.
Essayer d'explorer comment utiliser le sonore comme outil pédagogique.
Qu'il n'y a pas que la salle de classe comme espace d'apprentissage.
Et voilà, on voulait choisir des instants clés à partager à toutes et tous.
Et aller un petit peu plus loin aussi dans notre démarche de médiation scientifique.
Notre fine équipe radiophonique est de nouveau réunie dans le studio de Cas d'École pour vous faire entendre quelques échos de l'Institut français de l'éducation. On a Léa Dousson de l'équipe Veille Analyse.
Bonjour.
Alexandra Goualard et Aurélie Lussault de l'équipe des Léa Ife.
Bonjour.
Bonjour.
Sébastien Bougdin de Cas d'École.
Bonjour.
Et bien sûr, Alexandra Pêche et Edwige Courreau-Falquero qui travaillent sur le projet Collège Plus Calvados.
Bonjour.
Bonjour.
Pour ce deuxième épisode de la saison, on vous propose de retourner se promener radiophoniquement aux rencontres internationales du réseau des Léa Ife de mai 2025, de faire un saut dans le temps pour écouter les disques freinés, première utilisation peut-être du sonore comme outil pédagogique, mais aussi de rentrer dans les coulisses méthodologiques d'un Edurevue sur les transmissions culturelles familiales et inégalités scolaires, et d'explorer les possibilités d'aménagement des couloirs en tant qu'espace d'apprentissage. Alors, il fait quoi, chers collègues ?
Eh bien, il fait 4 chroniques, bien sûr.
Et du Vox.
Les ondes de l'éducation.
L'instant Léa Ife.
Espace d'apprentissage.
Et on commence par vous, Aurélie et Alexandra. Qu'est-ce que vous allez nous faire écouter ce mois-ci ?
Eh bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, Maë, on s'appuie sur la rencontre internationale du réseau des Léa Ife de mai dernier, durant laquelle la thématique de la preuve dans notre contexte de recherche collaborative a été mise au travail. Et nous allons retracer les grandes lignes de la conférence donnée par Thibaut Kopp.
Alors, pour remettre un peu dans son contexte, Thibaut Kopp est professeur en sciences de l'éducation à l'Université libre de Bruxelles. Et sa conférence s'intitule « Peut-on co-construire de la preuve en recherche collaborative ? Discutons données probantes, recherche collaborative, leurs intérêts et leurs limites. »
On vous écoute.
L'instant Léa Ife. Thibaut Kopp débute sa conférence en évoquant la crise que traversent les recherches en sciences de l'éducation. Écoutons.
Le champ de la recherche en sciences de l'éducation, s'il y a bien un consensus qui le traverse, c'est qu'une de ses finalités, c'est une finalité de changement ou d'amélioration ou de transformation des pratiques éducatives pour avoir des bienfaits à court terme, à moyen terme, à long terme sur l'apprentissage des élèves et sur les systèmes éducatifs en général. Or, ça fait plus de 30 ans qu'on se rend compte que le champ de la recherche en sciences de l'éducation est en crise dans ce rapport à la pratique. On voit très peu en fait de transfert de ce qui se fait dans la recherche en sciences de l'éducation, dans les pratiques éducatives, dans les programmes de formation des élèves, dans les curricula de formation, dans la formation des enseignants, dans la manière dont on structure même les systèmes éducatifs. On voit en fait très peu d'impact, ou des impacts qui sont très indirects.
Il illustre par différents éléments issus de la littérature scientifique les raisons de cet échec de la recherche à accompagner l'évolution des pratiques en éducation. Pour répondre à cela, Thibaut Kopp explique le renforcement de ce qu'il appelle des quasi-écoles de pensée. D'une part, le champ de la recherche fondée sur les données probantes et d'autre part, le champ de la recherche collaborative qui sont deux champs qui s'opposent.
Alors, ils s'opposent assez fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans leurs fondements, dans leurs principes fondamentaux, il y a des éléments qui sont extrêmement différents. La recherche fondée sur les données probantes, elle va chercher à définir, à développer des connaissances qui sont généralisées, qui sont implémentables partout. Elle poursuit cet objectif-là. La recherche collaborative, elle va chercher à produire des connaissances qui ont de la pertinence locale, qui ont du sens et de la validité à l'endroit où elles ont été cherchées, avec les praticiens qui ont fait partie de la co-construction de la connaissance. Et puis un deuxième élément à l'origine de ces deux champs qui est fondamentalement différent et qui pose énormément de questions actuellement sur la place du jugement professionnel des acteurs et actrices de l'éducation, c'est que la recherche fondée sur les données probantes va affirmer se mettre en démarche de professionnalisation des enseignants et des enseignantes par la mise à disposition d'outils qui sont validés par la recherche. Et donc, l'acteur et actrice de l'éducation devient professionnel parce qu'on lui donne la capacité à aller se saisir d'outils qui ont fait leur preuve dans la recherche. Ça, c'est le côté recherche fondée sur les données probantes. Et par contre, du côté de la recherche collaborative, on va se mettre en recherche de développement professionnel, de professionnalisation des enseignants et des enseignantes par un développement de la réflexivité au travers de la co-construction de savoir, au travers de la participation commune à des projets de recherche.
On comprend bien dans cet extrait pourquoi ce sujet est si sensible. Et à ça s'ajoute que la recherche fondée sur les données probantes porte une très grande attention aux méthodes de recherche et que du côté de la recherche collaborative, l'importance est donnée à la relation entre les individus, les interactions entre les chercheurs-chercheuses et les praticiens-praticiennes. Ayant mis en évidence ce point, Thibaut Kopp pointe les défis et les critiques de chacune de ces deux approches pour voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir, comme il le dit lui-même.
Pour origine des recherches fondées sur les données probantes, il cite la conférence de Hargreaves qui s'est déroulée en Grande-Bretagne en 1996 et qui disait
« Chers pères, chercheurs et chercheuses en sciences de l'éducation, je vous affirme que l'enseignement n'est pas fondé sur la recherche et que la profession enseignante n'a aucun lien, n'a aucune connexion avec les résultats qui sont produits par la recherche en sciences de l'éducation. »
Hargreaves poursuit en faisant un parallèle avec l'evidence-based medicine. D'autres chercheurs, dont Slavin, réagissent à cette conférence et lancent un appel à une révolution du champ de la recherche en éducation par la généralisation de la recherche expérimentale. Thibaut Kopp précise que le courant s'institutionnalise très rapidement, car les bailleurs de fonds et les politiques s'en emparent et créent un discours très séduisant autour de « on peut savoir et on se doit de savoir ».
Parce que l'evidence-based research, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va dire la question des bonnes pratiques, la question de ce qui doit être mis en place dans les écoles, en face des enfants, des élèves, des jeunes, doit être investiguée au travers de certaines méthodologies. Et c'est très important. Et en disant ça, ce que fait la recherche fondée sur les données probantes, c'est hiérarchiser les connaissances qui viennent de la recherche en fonction de leur provenance méthodologique.
Comme en médecine, il y aurait trois catégories de recherche et c'est ce qu'on appelle la pyramide des preuves. Au niveau le plus bas de cette pyramide, les recherches descriptives, comme les recherches collaboratives, recherche-action, recherche participative, puis celles qui visent à démontrer un phénomène par des expérimentations à petite échelle, avec un groupe contrôle. Et au plus haut, celles qui affirment et généralisent par des expérimentations à plus grande échelle et qui peuvent prendre la forme de méta- ou méga-analyse. Thibaut Kopp pointe dans sa conférence qu'en France, cette pyramide des preuves est formalisée par le CESEN. Mais pour lui, cette catégorisation est problématique.
Pourquoi est-ce que c'est problématique ? Parce que ça crée une forme d'hégémonisme quant à la production de connaissances scientifiques. Quand on dit qu'il y a des manières de créer de la connaissance qui sont meilleures que d'autres, évidemment, quel que soit le discours qu'on a après, qui est « ah, mais on reconnaît quand même le fait que toutes les recherches sont importantes, etc. », quel que soit le discours qui est produit après sur ces bases-là, il y a une forme d'hégémonie qui se crée. Or, cet hégémonisme, pour moi, elle vient d'un postulat qui est complètement erroné sur des choses qui sont des bases de la démarche scientifique. Parce qu'elle part de la méthode plutôt que de partir d'une réflexion sur quels sont les phénomènes qu'on étudie.
En effet, la démarche scientifique, c'est partir de la nature du phénomène étudié pour aller vers un raisonnement méthodologique permettant de l'aborder. Ici, ce que Thibaut Kopp explique, c'est que les recherches fondées sur les données probantes ont tendance à inverser cette démarche et que cela induit fortement la façon dont sont menées et pensées ce type de recherche en éducation.
L'éducation fondée sur les données probantes, ou la recherche fondée sur les données probantes en éducation, va aller poser tous les phénomènes éducatifs du côté du continuum qui est qu'on cherche à découvrir une réalité unique parce que cette réalité unique, elle existe. Ou au moins, va poser le postulat que c'est bien assez correct que de voir les phénomènes en sciences de l'éducation de cette manière-là pour découvrir des réalités.
Voilà. Donc nous en avons fini avec les recherches basées sur les données probantes. Passons maintenant aux recherches collaboratives. Le champ de la recherche collaborative, qui associe des praticiens, des praticiennes, des chercheurs et des chercheuses, a commencé à se formaliser dans les années 90. Ce champ propose lui aussi une réponse à la crise de la recherche en éducation, qui peine à articuler résultats des recherches et pratiques. Il y a énormément de formes de recherche collaborative, mais quelle que soit la forme et le nom de ce type de recherche, elles partagent toutes des points communs. Et ces points communs qui ne sont pas remis en question sont...
Faire de la recherche avec, plutôt que sur, les acteurs et les actrices scolaires. En visée de développement professionnel, en visée d'une pertinence locale des problématiques qui sont abordées, puisque les problématiques sont aussi amenées par les acteurs et actrices qui font partie des collaborations, et avec une visée de transfert et de dissémination des résultats de recherche qui est directe, puisque les acteurs et actrices font partie du processus de co-construction de la connaissance, cette co-construction, elle leur appartient aussi. La connaissance leur appartient aussi. Ils retournent avec cette connaissance dans leur propre pratique, mais aussi dans leurs établissements, et ils vont la disséminer dans leur discours avec les collègues. Et donc ces éléments-là, ils sont très pertinents, en fait, en rapport avec ce manque d'articulation entre recherche pratique en éducation. Et c'est des éléments qu'on ne remet pas en question sur la recherche collaborative.
Thibaut Kopp définit également la recherche collaborative comme une recherche engagée, qui implique des conflits inter-rôles et des conflits intra-rôles. C'est-à-dire que des difficultés naissent du fait de faire travailler ensemble des personnes d'horizons différents. Et ces difficultés se répercutent sur la mise en place et le déroulement de la recherche. Le risque principal étant d'impacter la qualité de la recherche, car...
Pour faire fonctionner la machine tant bien que mal, on poursuit finalement un objectif de collaboration bien plus qu'un objectif de recherche.
Une équipe de recherche américaine s'est penchée sur cette difficulté et a défini des balises comme critères de qualité en recherche collaborative. Ces critères de qualité concernent les conditions de construction de la collaboration, la conduite de la recherche, l'impact sur les connaissances produites, les capacités des transformations des professionnels et organisations impliquées.
Et pour terminer cet épisode de l'Instant Léa Iffé, nous avons choisi de laisser les derniers mots à Thibaut Kopp avec la conclusion de sa conférence.
Et si j'essaye de conclure alors sur cette question que je posais en début de conférence sur peut-on co-construire de la preuve en recherche collaborative ? Alors oui, mais seulement si on enlève le mot preuve et qu'on parle de connaissance qui est rigoureuse, valide et fiable. Ce qu'en fait on entend dans la notion de preuve quand on l'utilise, mais quand on l'extrait du paradigme de la recherche fondée sur les données probantes. On vient sur des connaissances qui sont rigoureuses, de qualité, valides et qui peuvent être implémentées sur le terrain. Et ici, l'idée d'enlever le mot preuve, c'est de ne pas participer, comme je vous le disais, à plus d'institutionnalisation de ce mouvement et de ne pas avoir l'impression qu'il faut toujours patauger dans cette notion de preuve pour dire « c'est pas de la preuve expérimentale que je fais, mais c'est quand même de la preuve ».
En tout cas, je crois qu'ici, on a la preuve que ça avait l'air absolument passionnant, cette conférence. J'imagine que ça a suscité des questions, un moment de questions-réponses et de réflexions collectives qui devaient être géniales, non ?
Oui, tout à fait. Donc, après la conférence, on a eu un long temps d'échange avec des questions des participants, enfin des personnes qui écoutaient. Et en tout cas, je vous invite à aller écouter la conférence et même les questions que nous avons en ligne sur notre site internet d'Eléa Iffé, sur la page des manifestations Rencontre internationale de mai 2025. Vous passerez forcément un bon moment.
Eh bien, merci beaucoup Aurélie Lusseau et Alexandra Gualard pour cette chronique stimulante. On vous mettra bien sûr le lien vers la conférence en description de cet épisode. Je me tourne maintenant vers toi, Léa, pour la chronique EduVox qui décrypte les recherches en éducation. Tu te lances ?
Volontiers. Aujourd'hui, j'arrive en plateau avec mon EduRevue sur les transmissions culturelles familiales et inégalités scolaires. Je vais donc vous en dire un peu plus sur la manière dont les recherches en éducation travaillent cette thématique.
Petit spoiler, j'ai aperçu sur ton script les noms de Bourdieu, Passeron, Lahire, entre autres, ça s'annonce bien.
EduVox.
Dans ton EduRevue, tu t'es donc intéressée aux inégalités sociales à l'école, mais sous quel angle ?
J'ai cherché à comprendre pourquoi ces inégalités persistent autant. Parce que c'est important si on veut un jour changer la donne, et parce que les recherches sur le sujet sont nombreuses. En sociologie, bien sûr, mais aussi en linguistique, psychologie sociale, sciences cognitives, neurosciences. Ces travaux identifient de multiples facteurs explicatifs qui cassent cette idée très répandue que la réussite scolaire dépendrait uniquement du travail ou des dons des élèves.
Les scientifiques essaient d'établir comment ça se fait que ça se passe comme ça. Pourquoi, par exemple, les fils de professeurs réussissent mieux à l'école que les fils d'ouvriers ?
On vient d'entendre le sociologue Pierre Bourdieu. Avec Jean-Claude Passeron, il expliquait dès les années 60 que les enfants de milieux favorisés réussissent mieux scolairement parce qu'ils ou elles héritent dans leur famille d'un capital culturel, c'est-à-dire des manières de penser, de parler, de se comporter que l'école valorise. Dans mon EduRevue, je me suis concentrée sur les recherches qui ont depuis affiné cette célèbre analyse.
Et alors comment les chercheurs et chercheuses montrent cette influence des familles ?
D'abord en la mesurant, grâce à des outils statistiques. Ils et elles établissent des corrélations entre les caractéristiques sociales des parents, parfois leurs pratiques éducatives, et le développement des enfants. C'est ce que fait par exemple la neuroscientifique Julia Nathan à l'aide de l'imagerie cérébrale. En sociologie, ces analyses montrent que c'est le diplôme des parents, et en particulier celui de la mère, qui est le plus prédictif de la réussite scolaire. Pourquoi ? Parce que ce sont encore majoritairement les mères qui prennent en charge les tâches parentales liées à la scolarité. Comme l'ont mis en évidence Bernard Lahire ou Gaël-Henri Panabière, la transmission du capital culturel dépend en effet notamment du temps passé entre parents et enfants. Elle n'a rien d'automatique.
Ceci dit, les études quantitatives ne sont pas les seules approches, non ?
Non, effectivement. Certains chercheurs et chercheuses mènent par exemple des entretiens approfondis avec des parents et des enfants, réalisent des observations de leur quotidien. Parce que ce sont les analyses qualitatives qui permettent le mieux de comprendre les liens entre les ressources des parents, leur vision du monde et leur manière d'être et d'agir avec leurs enfants. Mais aussi d'écrire ces dernières, bien loin de certains clichés, comme celui sur la démission des classes populaires. Ces analyses qualitatives aident ainsi à comprendre pourquoi, même si tous les parents s'investissent dans la scolarité, les familles favorisées ont encore davantage de chances de préparer leurs enfants aux attentes de l'école. Écoutons Gaël-Henri Panabière.
En fait, ça paraît important pour certains parents d'avoir ce travail de préparation et qui, bon, dans certains cas, ça va se traduire par se saisir de toutes les occasions de mobiliser des savoirs et de faire en sorte que son enfant soit conscient qu'il est en train d'apprendre un certain nombre de choses. On va considérer que son enfant, ben, c'est normal qu'il soit un apprenant à temps plein. Par exemple, s'il a un enfant veut regarder un DVD, ça durera déjà un certain temps et pas tout le temps. Et puis que, si tu veux regarder un dessin animé de plus, d'accord, mais tu vas le regarder en anglais.
Ce que décrit la sociologue, on ne peut pas le saisir uniquement avec des statistiques. Il faut aller voir de près. Ces approches permettent aussi d'éclairer certaines contradictions statistiques. Prenons la lecture. Certaines enquêtes trouvent un lien fort avec la réussite scolaire, d'autres moins. Pourquoi ? Parce que quasiment tous les parents lisent avec leurs enfants maintenant. Ce qui change, c'est la fréquence, la manière de le faire, la diversité des livres à la maison. Tout ça, seule l'observation fine, comme celle menée par Stéphane Bonnery, permet de le saisir.
Et ces recherches, elles se limitent à l'opposition classe populaire-classe favorisée ?
Non. Les recherches actuelles établissent des distinctions plus fines, par exemple entre les familles enseignantes et les familles de cadres du secteur privé, ou entre les fractions précaires et établies des classes populaires. Ça permet de mettre en évidence une grande variété de rapports à l'école.
Tu as beaucoup parlé d'enquêtes dans les familles. Est-ce que les chercheurs et chercheuses vont aussi observer ce qui se passe à l'école ?
Oui, et c'est essentiel. Certaines recherches sur les familles, mal interprétées, ont donné naissance à l'idée que les enfants de classe populaire échoueraient plus fréquemment à l'école uniquement par manque de stimulation à la maison, comme si c'était uniquement la faute des familles. Or, les enquêtes menées directement dans les classes, par diverses méthodes, montrent autre chose. Les différences entre enfants ne deviennent inégalités qu'une fois à l'école. C'est aussi son fonctionnement qui les produit. Les chercheurs et chercheuses rattachés au laboratoire ESCOL ou GRESCO ont identifié, par exemple, des attentes implicites de l'école. Des choses qu'on exige des élèves sans jamais les enseigner explicitement. Elles montrent aussi que les enseignants peuvent, sans le vouloir, renforcer les inégalités. Écoutons Sébastien Goudot, chercheur en psychologie sociale à ce sujet.
Par exemple, qu'à un niveau de compétence égal, les enseignants vont davantage interroger les enfants de milieux favorisés que les enfants de milieux populaires. C'est pas intentionnel, bien évidemment. Il y a des études qui documentent que les enseignants, dans leur très très grande majorité, sont vraiment motivés par des valeurs d'égalité et sont très sensibles à cette question des inégalités. Nous, on l'explique par un phénomène de proximité culturelle, en fait. C'est-à-dire que l'enseignant qui veut faire progresser sa séance, qui est aussi, on le rappelle, dans un temps contraint, ça se comprend qu'il va s'appuyer sur des élèves dont il sait qu'ils ont les bonnes réponses ou qu'ils vont pouvoir peut-être servir de modèle aussi aux autres élèves.
On voit bien comment toutes ces recherches montrent finalement que les inégalités scolaires ne sont pas inévitables. Elles sont socialement construites et donc transformables.
D'où le fait qu'on puisse regretter parfois le manque d'impact des recherches en sciences de l'éducation, comme on a pu l'entendre dans la conférence de Thibaut Kopp tout à l'heure.
En tout cas, ça m'a vraiment donné envie d'aller lire ton travail et de creuser cette thématique. Ça semble passionnant, merci.
Ouais, je trouve super intéressant cette complémentarité quand même que tu dresses et que tu montres entre méthodes quantitatives et qualitatives et comment ça vient nourrir en fait tous les résultats. En tout cas, si nos auditeuristes veulent, comme Alexandra, en savoir un peu plus sur la compréhension de ces inégalités familiales, culturelles et scolaires, ils et elles peuvent consulter ton Eduruvue.
Oui, absolument. C'est l'Eduruvue numéro 152 et vous le trouverez sur les sites de l'équipe Veille Analyse de l'IFE.
Et on vous mettra bien entendu un lien en description de ce podcast. Edwige et Alexandra, c'est à votre tour de présenter votre chronique Espace d'apprentissage. Où est-ce que vous nous emmenez cette fois-ci ?
Eh bien, dans le dernier épisode, on vous a parlé de la salle de classe, et plus précisément de classe flexible. Et pour ce deuxième épisode, on avait envie d'emmener les auditeurs et les auditrices dans des espaces qui risquent de les surprendre un petit peu.
En effet, on va parler d'espaces qui sont présents dans tous les établissements scolaires, mais qui sont très rarement mis en lien avec les enjeux d'apprentissage.
Le suspense est à son comble. On vous écoute après la petite virgule.
espace d'apprentissage.
Et oui, pour ce deuxième épisode, nous avions envie de vous parler des couloirs. Comme on l'a mentionné, ces espaces, les couloirs, n'ont généralement aucune vocation pédagogique. Ils sont conçus comme des espaces purement utilitaires, uniquement dédiés à la circulation des élèves et à la gestion des flux.
En plus de ça, les couloirs peuvent être synonymes de mal-être et de stress pour les élèves. Ils sont souvent exigus, bruyants, propices aux bousculades. Et comme les couloirs sont peu surveillés par les adultes, ils peuvent même être des lieux d'insécurité pour les élèves. C'est ce que montre le chercheur Thibaut Hébert en sciences de l'éducation. Il a mis en évidence dans ses recherches que les couloirs et les recoins sont des espaces préférentiels pour des faits de violence, des endroits où peuvent se produire des jeux dangereux, des micro-agressions, du harcèlement. Nous allons donc vous parler des couloirs en se posant la question suivante. Comment de simples espaces de circulation peuvent-ils être mis à profit pour le bien-être des élèves et plus encore pour leurs apprentissages ?
Nous avons trouvé, en région lyonnaise, un exemple intéressant de lycée dans lequel la conception des couloirs fait pleinement partie du projet éducatif.
Oui, il s'agit du lycée Docteur Charles Mérieux qui a ouvert en 2021 dans le 7e arrondissement à Lyon. Les concepteurs de ce lycée ont porté une attention particulière à l'aménagement des couloirs pour une raison bien précise, c'est qu'à l'origine, ce bâtiment n'était pas du tout pensé pour accueillir des élèves, pour accueillir des activités scolaires, puisqu'il s'agissait du siège social d'une grande entreprise. Et donc, pour devenir un lycée, pour le transformer en lycée, les concepteurs ont dû entamer de nombreuses transformations. Mais malgré les importants travaux effectués, il a tout de même fallu faire avec les contraintes du bâti et notamment avec le manque d'espace extérieur pour créer une cour de récréation. Et donc la solution qui a été trouvée a été de valoriser les espaces intérieurs du bâtiment pour accueillir les élèves en dehors des heures de cours et pour pallier l'absence ou la quasi-absence de cours de récréation. Les concepteurs ont donc décidé de réaménager les couloirs pour en faire ce qu'ils ont appelé des espaces de respiration.
Et nous avons interrogé Sébastien, qui est professeur d'histoire-géographie dans ce lycée et qui est également chargé d'études à l'IFE. Il nous raconte comment les élèves se sont appropriés ces espaces de respiration. Il nous explique également comment ces couloirs repensés, réaménagés, sont devenus pour lui une véritable opportunité pédagogique.
Alors, le bâtiment est construit en longueur. Sur cette longueur, on trouve une succession de renfoncements, d'alcôves, qui sont marquées par une couleur différente, plutôt une couleur bleue, dans lesquelles on va trouver alors, soit des cubes, on pourrait décrire comme ça, sur lesquels les élèves peuvent s'asseoir durant leur pause, ou alors des espaces avec des tables, des chaises, dans un renfoncement. C'est vraiment une petite alcôve avec des bancs, une table au milieu, un espace assez feutré. On peut en trouver plusieurs les uns à côté des autres qui permettent aux élèves d'avoir un espace assez privé, finalement.
À son arrivée dans ce lycée en tant qu'enseignant, Sébastien nous raconte qu'il était pourtant dubitatif sur le fait que des alcôves à l'intérieur du bâtiment, dans un couloir, puissent compenser l'absence de cours de récréation. Mais au fil du temps, il a observé que ces espaces plaisaient aux élèves, qu'ils se l'appropriaient et qu'ils s'y sentaient bien finalement.
Moi, la première fois que je suis arrivé dans l'établissement, j'avais des doutes sur ces espaces. Voilà, avec l'idée quand même que ce sont des jeunes, des adolescents qui ont besoin de bouger, qui ont besoin aussi de sortir. Je me demandais si ça allait marcher, ces espaces interstitiels, ces alcôves, le fait de ne pas avoir de cours de récréation. Et donc, c'est quelque chose que je demande chaque année aussi aux élèves. Comment ils se sentent dans le lycée et est-ce qu'ils aiment ces espaces-là ? Et de manière générale, c'est un espace qui est familier pour eux. Ils l'aiment, ils l'apprécient. C'est un espace où ils se retrouvent. Donc, c'est vraiment pour eux un espace de respiration, un espace de sortie, un espace de rencontre avec les autres. Ils aiment plutôt bien le mobilier. Ils aiment son côté flexible. Ils aiment le fait que ce ne soit pas des bancs, justement, le long du couloir, mais des espaces plutôt conviviaux qui peuvent ressembler à des espaces qu'on aurait plus tard en entreprise de pause café, quelque part, sans la machine à café. Mais voilà, d'abord, c'est un espace qu'ils apprécient.
Et non seulement ces alcôves sont des espaces de socialisation dans lesquels les élèves se sentent bien, mais ils ne font pas qu'y discuter et s'y reposer. Ce sont en effet aussi des espaces de travail personnel et de travail en groupe, en dehors des heures de cours. Les élèves s'en emparent même davantage que d'autres espaces comme le foyer ou le centre de ressources.
J'observe assez souvent des élèves qui y travaillent, qui font le choix non pas d'aller dans le foyer des élèves, où il peut y avoir peut-être plus de bruit parce qu'il y a plus d'activités, qui ne font pas le choix d'aller au centre de ressources, mais qui font le choix de rester justement dans des espaces sans doute dans lesquels ils se sentent bien, dans lesquels ils sont un petit peu plus feutrés. Ce qui est paradoxal, parce que dans un lieu de passage, mais puisqu'ils sont un peu en retrait, ils aiment bien parfois se mettre là pour finir un devoir qu'ils ont débuté peut-être un petit peu trop tard par rapport à la date de rendu, pour préparer un exposé, sachant aussi que dans cet établissement, ils ont la possibilité d'emprunter des ordinateurs portables. Donc c'est un espace dans lequel ils peuvent collaborer. La vraie plus-value de cet espace-là, c'est que c'est un espace qui encourage à la collaboration, à la discussion, à la mise en commun du travail, et c'est un espace qui est assez polyvalent.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces couloirs sont non seulement appréciés des élèves, mais qu'ils constituent aussi des ressources éducatives pour les enseignants. Par exemple, Sébastien les utilise comme une extension de sa salle de cours, ce qui lui permet de désengorger ses classes, puisque celle-ci dépasse régulièrement les 35 élèves. Et ces alcôves dans les couloirs lui permettent de diversifier les activités qu'il propose à ses élèves, notamment pour faciliter le travail en groupe. Et son constat en tant qu'enseignant, c'est que ces alcôves sont aussi un outil pour amener les élèves vers plus d'autonomie dans leurs apprentissages.
On a des classes qui sont quand même très chargées, 36 élèves par classe en moyenne. Donc avec 36 élèves par classe, le couloir est un moyen aussi d'aérer la salle et de permettre la collaboration dans des espaces qui soient justement un petit peu éclatés, qui permettent aussi plus de confidentialité dans le travail qu'on veut mener, et puis aussi plus d'autonomie. Donc le travail de groupe, pour moi, il peut se faire à l'extérieur de la classe. Je trouve que l'usage du couloir aussi, il permet de différencier des activités. Par exemple, il y a déjà eu des cours, là, avec des classes avec lesquelles j'avais vraiment confiance. Les élèves avaient le choix entre pouvoir avancer dans le cours de façon plus magistrale pour certains qui avaient besoin d'explications à l'oral, de répondre à des questions, etc. Et de permettre en parallèle à des élèves, eux, d'aller dans le couloir ou dans une autre salle pour travailler sur un autre sujet, un exercice sur document, avec l'objectif de revenir en fin de séance, partager le travail avec ceux qui étaient restés en classe.
Mais pour l'enseignant, comment s'assurer que les élèves qui travaillent dans le couloir travaillent bel et bien? Comment les accompagner s'ils ont des questions? Pour Sébastien, il y a donc une progression et un subtil équilibre à trouver entre faire confiance aux élèves de manière ciblée, laisser les élèves entrer dans l'autonomie, mais sans pour autant les laisser livrer à eux-mêmes.
Au cours de la séance, je vais naviguer d'un groupe à l'autre dans la salle de classe et puis à l'extérieur, dans le couloir, pour essayer de visiter un petit peu tout le monde, vérifier que le travail est fait. L'idée, c'est de vérifier surtout que le climat est bon, que l'engagement des élèves est bon, et puis essayer de vérifier, parce que c'est là peut-être aussi parfois la limite, vérifier que le travail est fait par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est au lycée, il y a des téléphones portables, c'est de vérifier justement qu'ils sont concentrés sur l'activité qui est donnée, sur les documents qui sont donnés, qu'ils réalisent la tâche qui est demandée.
Un des mérites de ces alcôves, c'est donc de préparer les élèves à l'entrée dans l'enseignement supérieur en développant leur autonomie. Les élèves s'habituent, en travaillant dans ces lieux, à travailler par eux-mêmes sans la surveillance directe des adultes et dans des lieux qui ne sont pas exclusivement réservés au travail, comme il en existe dans beaucoup d'universités.
Pour échanger parfois avec d'anciens élèves qui sont partis dans le supérieur, j'ai l'impression que ces espaces-là, qui ne sont pas justement des cours de récréation, participent aussi de leur apprentissage d'une autre forme d'appropriation des espaces, une manière peut-être plus adulte aussi de pratiquer des espaces. Certains élèves ont le sentiment qu'ils retrouvent parfois dans des établissements du supérieur, dans des écoles de commerce, dans certaines universités ou autres, quelque chose qui s'apparente justement à ces espaces qu'on avait au lycée Mérieux. Et donc qu'ils sont déjà quelque part sociabilisés, ils ont déjà une forme de socialisation à d'autres formes d'espaces de repos au-delà de la seule cour de récréation ou du couloir classique entre deux salles de classe.
Malheureusement, dans les établissements existants, il est souvent difficile, voire presque impossible, de réaménager les couloirs en raison de contraintes architecturales et des normes de sécurité en vigueur. Mais pourtant, l'exemple du lycée Dr Charles Mérieux que nous a présenté Sébastien, mais il en existe d'autres en France et à l'étranger, illustre l'immense potentiel des couloirs pour accompagner les apprentissages. Et cela nécessite, pour ce faire, pour les aménager, une réflexion conjointe entre d'une part les architectes et d'autre part l'équipe éducative au moment de bâtir un nouvel établissement scolaire. Et la question que cette équipe peut être amenée à se poser est comment peut-on au lycée, mais aussi dès le collège, adapter les aménagements, mais aussi les modalités de surveillance et d'accompagnement des élèves pour en faire des espaces d'apprentissage progressif de l'autonomie.
Bah absolument passionnant. En tout cas, moi qui ai fait mon lycée dans des zones de grand froid, j'aurais adoré avoir une cour de récréation dans un couloir.
Ah oui, moi aussi, pareil.
Ouais, ça aurait été pas mal. Hein.
On ne peut pas faire des couloirs comme ça à l'IFE ?
Ah bah, ce serait super. Et bah, en tout cas, merci Edwige Courreau-Falquero et Alexandra Pêche pour nous avoir fait ainsi découvrir les possibles des couloirs. Dans le prochain épisode, où nous mènent ces couloirs ?
La prochaine fois, nous explorerons les évolutions des salles d'études et des salles de permanence.
On a hâte de découvrir ça. Mais en attendant et avant de se quitter, Sébastien va nous faire découvrir des archives dans sa chronique Les ondes de l'éducation. C'est bien ça ?
Oui, mais aujourd'hui, je me suis lancé un défi. Je vais vous parler d'innovation pédagogique avec la TSF et les disques vinyles.
C'est ton côté vintage.
Exactement. Célestin Freinet est né dans un petit village des Alpes-Maritimes, à Garces, à la fin du 19e siècle. Il ne parle que le provençal, car issu d'une famille d'agriculteurs. Dans le monde paysan, fabrique ses outils, surtout l'entraide entre agriculteurs lors des récoltes marquera Freinet. D'ailleurs, ce sera le fondement de sa démarche pédagogique. Le bon sens des sciences et des techniques et la coopération. Dès 1927, Célestin Freinet utilise en classe l'imprimerie, le cinéma et bien sûr la radio, enfin son ancêtre, la TSF.
La première chose qu'il introduit dans sa classe, c'est la TSF. Le premier tourne-disque qu'ils vont fabriquer, c'est 32. Donc on va fabriquer parce que ça coûte moins cher et ça permet en même temps de faire rentrer de l'argent parce qu'on vend, la CEL, la coopérative, vend à l'extérieur du mouvement également.
Pour maîtriser ces nouveaux outils, il faut produire des ressources et des supports pour l'enseignement. Freinet fonde alors la coopérative de l'enseignement laïque, CEL, pour la publication de revues pédagogiques, comme par exemple la bibliothèque de travail et plus précisément les BT sonores, mais aussi pour la fabrication et la vente des phonographes. Michel Mulat, enseignant à la retraite et archiviste à l'Institut coopératif de l'École moderne, nous éclaire sur l'utilisation de la TSF en classe.
On a deux intérêts. Le premier, c'est faire rentrer la musique. Et le deuxième, on est essentiellement dans des classes de campagne, donc dans des villages isolés où les enfants ne parlent pas français à la maison. Donc, il va falloir leur apprendre à prononcer. Donc, on va avoir des disques avec des fables de La Fontaine, avec ce qui se faisait à l'époque du commerce, donc pour apprendre à bien prononcer les mots, à bien lire un texte en français. Et puis, au niveau pédagogique, l'écoute, c'est bien, c'est-à-dire l'écoute en classe entière est exceptionnelle. C'est quand on veut vraiment travailler, échanger entre les enfants. Mais les enfants travaillent dans des ateliers, donc ils peuvent choisir de prendre le phono, s'installer devant, pendant que d'autres vont travailler en mathématiques ou vont travailler en français. Donc ce sont des ateliers choisis par les enfants.
Tout naturellement, les vinyles du CEL trouvent une utilisation au moment des kermesses, à la fin de l'année scolaire.
Le folklore ne peut pas être improvisé. Donc là, on a une pédagogie extrêmement directive. Donc on a une face dans laquelle on va avoir jusqu'à le petit doigt qu'il faut lever au moment de donner. Donc là, c'est une répétition extrêmement, avec la musique derrière, mais extrêmement directive. C'est inscrire les enfants dans le terroir. Et les parents sont impliqués. Ça permet... Pendant les kermesses, ils laissent un peu d'argent qui permet d'acheter une caméra ou un phono ou du matériel ou faire des voyages. Et en même temps, ces kermesses permettent d'envoyer les gamins faire des reportages chez le boulanger, chez les différents métiers, et de faire venir des parents spécialisés qui viennent expliquer à un groupe de gamins ou à la classe entière leur métier, leur savoir-faire.
Après la Seconde Guerre mondiale, l'urbanisation de la France s'accélère et les disques ne sont plus d'actualité. Pierre Guérin, enseignant et pionnier de l'utilisation du magnétophone en classe, s'associe avec Jean Thévenot pour participer à l'émission « Chasseurs de sons » diffusée sur les ondes de l'ORTF.
Et l'idée de Pierre Guérin, c'est de faire interroger les grands spécialistes du moment, donc en littérature, en sciences, en économie, Les enfants doivent préparer leur interrogatoire, bien sûr. Donc, il y a tout un travail d'enquête qui se fait par tous les moyens qui sont possibles, y compris des disques quand ils sont disponibles, des films, et ils vont les interroger.
Croyez-vous qu'il faut faire rajeunir les personnes âgées ?
Ah, croyez-vous, c'est ce mot « croyez-vous » qui me gêne un peu. Croyez-vous qu'il faut, n'est-ce pas ? C'est délicat quand on pose des questions comme ça. Moi, en tant que biologiste, évidemment, si demain, quelqu'un découvre un procédé de rajeunissement, je serai content.
Alors, nous venons d'écouter un extrait avec Jean Rostand, qui date de janvier 1970. Les BT sonores ont évolué en passant du disque à la cassette jusqu'à la clé USB. Ils font partie aujourd'hui de la bibliothèque de travail Junior Musique et Son. Lise Préfréné peut se retrouver également dans les web radios, comme l'évoque Michel Mulat.
Mais par contre, on fait des émules. Alors, pas toujours forcément dans l'esprit freiné. La radio que j'ai mise en place dans mon lycée a disparu avec moi, mais j'ai vu que des collègues l'avaient reprise.
Un grand merci à Michel Mulat d'avoir participé à cette interview.
Ouais, effectivement, on voit que ça a fait des petits, toutes ces initiatives pédagogiques.
Moi, je me suis revue avoir en main les BT sonores. Et là, merci à toi, maintenant je comprends l'histoire de ce document. C'est rigolo, ça a fait tilt au moment où tu l'as
D'accord,
dit.
D'accord, j'ai atteint mon objectif, c'était le principal.
En tout cas, un fond d'archives qui a l'air absolument passionnant et très riche. Merci Sébastien Boudin de nous avoir fait découvrir les disques freinés. On vous mettra quelques liens en description si vous souhaitez creuser la question ou l'écoute. Il fait quoi, c'est terminé pour ce mois-ci, mais on se retrouve en avril pour un prochain épisode. Nous nous réunirons de nouveau avec l'équipe Veille et Analyse, Cadécole, Collège Plus et l'équipe des Léa IFE qui vous feront découvrir des petits échantillons radiophoniques de leurs travaux, des décryptages des recherches en éducation, des échos, des rencontres internationales des Léa IFE, des projets pédagogiques autour de la radio et des espaces d'apprentissage. Il fait quoi ? C'est le magazine qui vous fait feuilleter en son ce qu'on fabrique à l'Institut français de l'éducation. Vous pouvez en attendant retrouver l'intégralité des épisodes d'Il fait quoi et des podcasts de Cadécole sur le site ife.ens-lyon.fr/cadécole et sur toutes les plateformes de podcasts. Merci à Adrien Reynaud en régie et Laurent Gaillard au mixage. Feuilleter en son pour un magazine radiophonique, c'est bien trouvé comme formule, non ?
Oui, c'est super, Maë, c'est super.
Je crois qu'on n'a pas coupé les micros, les filles.